Bonjour Kevin Dufraîche.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, une nuit de fête en Italie après le sacre de la Squadra Azzurra à l'Euro de football. Une victoire au tir au but face à l'Angleterre. 53 ans après, revoilà l'Italie sur le toit de l'Europe. Les autres titres, Kevin.
Emmanuel Macron ce soir à 20h, ce devait être une allocution pour parler des réformes. Ce sera pour présenter la riposte au variant Delta qui continue de gagner du terrain. On fera le point sur les chiffres et pour faire face, certains médecins plaident pour une vaccination obligatoire pour tous. Dans ce journal encore, l'Afghanistan qui demande une pause à l'Europe dans le renvoi de ses ressortissants alors que les combats s'intensifient avec les talibans. Se préparer avant le procès du 13 novembre, les victimes visitent la salle d'audience spéciale et la folie des Franco de retour depuis ce week-end à La Rochelle.
Nos invités ce matin à 7h50, le commissaire européen à la justice Didier Reynders, l'inventeur du pass sanitaire au niveau de l'Union européenne, un pass qui n'est déjà plus respecté par Malte. Et puis dans le grand entretien, François Asselin, le président de la CPME, et l'économiste Mathieu Plane, avant l'allocution ce soir du président Macron.
France Inter. Ils ont su résister à un Wembley hostile, chauffé à blanc et renverser la vapeur malgré un but encaissé dès la deuxième minute de jeu. Les Italiens sacrés champions d'Europe de foot hier soir face à l'Angleterre, au bout de la nuit londonienne au terme de la séance de tir au but. L'Italie prive donc les Anglais de leur premier Euro et fait le bonheur de ses supporters 53 ans après son premier titre continental. Récit à Rome d'une nuit de liesse, signé Bruce de Galzin.
Une nuit magique pour l'Italie après une victoire qu'Emiliano, à peine 19 ans, estime déjà mémorable.
C'est une émotion unique, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça, jamais. Un match superbe, un grand Mancini qui nous a amenés jusque-là, il nous a sauvés. Après ce Covid, on a réussi à s'en sortir. On est sorti de cette situation et on l'a fait avec le cœur.
À peine le dernier tir au but marqué, les tifosi se jettent dans la fontaine du Campo dei Fiori. Fumigène, pétards, concert de klaxons, les carabiniers veillent, mais laissent faire. Alessandra a vécu intensément tout le match après le premier but des Anglais.
L'Angleterre a disparu, on ne l'a plus vue et ça l'a fait totalement pour l'Italie. Je suis tellement heureuse, c'est dommage qu'on n'ait pas gagné avant les tirs au but, mais le gardien a été impeccable et on la voulait vraiment. Déjà à l'Eurovision, bon, dommage pour Berrettini, mais là on s'est racheté avec cette victoire de l'Italie.
Une année faste, oui, grâce à un pays qui s'est uni et qui tente de repartir alors que la pandémie reste dans les esprits, mais pas cette nuit. La fête est trop belle pour l'Italie. À Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et côté anglais, la disette continue donc 55 ans depuis le seul titre majeur des Three Lions, la Coupe du Monde 66. Lui n'est pas en disette du tout, Novak Djokovic, vainqueur hier du tournoi de tennis de Wimbledon. Le Serbe désormais à la table de Federer et Nadal puisqu'il égale le record de 20 titres en Grand Chelem. Djokovic vainqueur en 4-7 hier de l'Italien Matteo Berrettini.
Emmanuel Macron face aux Français et face aux variants.
Le chef de l'État s'exprime à 20h ce soir depuis l'Elysée. Il doit exposer sa stratégie pour éviter une quatrième vague dans les hôpitaux qui commencent enfin à respirer. Pour ça, il faut lutter contre le variant Delta du coronavirus qui continue de faire remonter les chiffres de l'épidémie. Véronique Julia.
Clairement, les choses s'emballent. 4256 nouveaux cas hier, 4696 avant-hier, 4580 vendredi dernier. Depuis quasiment une semaine, on dépasse allègrement les 4000 quand on était en dessous des 3000 cas quotidiens début juillet. L'augmentation est rapide, tellement rapide que les projections sont plus alarmantes chaque jour. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé probable qu'on atteigne les 20 000 cas quotidiens début août, mais sans exclure que ça aille plus vite encore et qu'on soit déjà à 30 000 cas par jour dans 3 semaines. Il suffit, d'après le ministre, d'observer ce qui se passe outre-Manche. On a, dit-il, 4 semaines de décalage avec la Grande-Bretagne, qui enregistre déjà plus de 30 000 cas par jour. Pour l'instant, le nombre d'hospitalisations et de patients soignés en réanimation est stable, voire toujours en décroissance. Un peu plus de 7 000 hospitalisés et moins de 1 000 patients en réanimation. Mais à ce rythme, si on ne freine pas l'évolution de l'épidémie, malgré le nombre de vaccinés, l'impact sanitaire se fera sentir, prévient l'exécutif. Un épidémiologiste pense même que si rien n'est fait, la situation pourrait redevenir problématique dans les hôpitaux dès la rentrée. À ce jour, 40% de la population est totalement vaccinée, 53% a reçu sa première dose.
Véronique Julia, et avant l'allocution, les décisions, conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée, avec parmi les pistes une extension du périmètre du pass sanitaire, mais jusqu'où? va-t-il devenir nécessaire pour entrer au cinéma ou aller au restaurant? Emmanuel Macron y était jusqu'ici opposé, mais ce serait un moyen de pousser à la vaccination sans la rendre obligatoire. Le président de la République devrait annoncer l'obligation pour les soignants, mais certains médecins plaident pour la vaccination obligatoire pour tous. Le professeur Jean-François Timsit est le chef du service réanimation de l'hôpital Bichat à Paris.
La solution du problème serait une vaccination obligatoire immédiate. À l'heure actuelle, c'est le début de l'augmentation exponentielle du nombre de contaminés. Si on fait une première dose maintenant, la deuxième dose sera mi-août. Et on peut espérer qu'on arrivera à la rentrée avec une proportion de vaccinés bien plus élevée. Ça, c'est ce que j'attendrai comme décision. J'aimerais bien que nous ayons un président pour une fois plus paternaliste, hein, comme le début de la Ve République. Je pense qu'effectivement, un discours ferme disant que le danger est très proche de nous sera certainement important. Malheureusement, je pense que la population n'est pas tout à fait prête à entendre une mesure extrêmement coercitive et très rapide. Mais c'est clair que si on dit on attend septembre pour prendre des mesures drastiques, ça sera déjà trop tard.
Le professeur Jean-François Timsit, il répondait à Cécilia Arbona. Et entre le Conseil de défense ce matin et son allocution ce soir, Emmanuel Macron passe la seconde avec les représentants de la filière automobile qui cherchent à financer leur transition écologique. Alors que l'Europe devrait encore durcir les règles sur les émissions de CO2 cette semaine, le secteur dit avoir besoin de 17 milliards d'euros d'ici 2025, Hélène Filly.
C'est le branle-bas de combat dans le secteur automobile. Ces dernières semaines, plusieurs constructeurs ont présenté leur stratégie d'électrification pour les 10 prochaines années et la Commission européenne devrait encore durcir la réglementation en matière d'émissions de CO2 mercredi prochain. La mutation sera douloureuse pour le secteur en France. Plus on accélère, plus le choc est dur à amortir, notamment pour les sous-traitants. L'enjeu est donc de localiser ou relocaliser des activités stratégiques comme les batteries, l'hydrogène, la connectivité pour atténuer les conséquences sur l'emploi. Il sera question de tout cela ce matin pour affiner la position de la France face aux propositions de l'Europe et définir peut-être l'ampleur du soutien public qui pourrait s'intégrer à un éventuel deuxième plan de relance. C'est une transformation nécessaire que le président est prêt à soutenir, fait savoir l'Élysée, rappelant aussi que 8 milliards d'euros d'aide ont déjà été annoncés il y a un an.
Hélène Filly du service économique de France Inter.
France Inter 7h07 et la guerre continue de faire rage en Afghanistan.
Les retraits des troupes américaines et britanniques se poursuivent et les talibans continuent leurs offensives un peu partout dans le pays. En face, l'armée afghane ne tient plus que les grands axes et les capitales provinciales. Et face à la crise, Kaboul appelle l'Europe à ne plus expulser les ressortissants afghans. Marie-Pierre Véraud.
Une pause de 3 mois dans les expulsions. C'est ce que demande le ministère afghan des réfugiés. Le gouvernement à Kaboul ne peut plus faire face. L'intensification des combats avec les talibans vient ajouter aux souffrances de la population, déjà éprouvée par une nouvelle vague de coronavirus et une sécheresse sévère. Le gouvernement afghan annonce par ailleurs qu'il n'acceptera plus les retours forcés. Ces derniers mois, les renvois d'Afghans depuis les États européens se sont multipliés. Les associations de migrants parlent de plusieurs milliers de cas depuis 2018. L'Afghanistan a en effet conclu avec l'Union européenne des accords de coopération qui facilitent les retours en échange d'une aide conséquente. Car les Afghans constituent la deuxième nationalité la plus représentée parmi les demandeurs d'asile en Europe, juste après les Syriens. Près de 45 000 d'entre eux ont déposé un dossier l'année dernière. Mais la multiplication des offensives par les talibans à la faveur du retrait américain pourrait de nouveau remplir les routes de l'exil.
En bref, toujours à l'étranger, la mise en garde de Washington à Cuba, secouée par des manifestations historiques hier, abat la dictature. On scandait des milliers de Cubains excédés par la crise économique. Les États-Unis soutiennent la liberté d'expression et condamneraient fermement tout acte de violence, dit le conseiller américain à la sécurité Jake Sullivan, alors que le président cubain a appelé ses partisans à répliquer dans la rue. Nous serons à Cuba dans le journal de 7h30.
À 2 mois de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre, les victimes sont invitées à visiter aujourd'hui la salle d'audience.
45 mètres de long, 15 mètres de large, spécialement construite pour accueillir près de 8 mois d'audience. Les 1800 parties civiles ont été invitées à déambuler au calme pour en savoir un peu plus aussi sur le déroulé du procès qui commencera le 8 septembre. Et exceptionnellement, France Inter a pu accompagner des survivants du Bataclan à leur entrée dans cette salle. Reportage Charlotte Piret.
Dès l'entrée du palais, ils ont pu découvrir portiques de sécurité, panneaux d'affichage installés en vue du procès. Ils ont ensuite remonté le long couloir jusqu'à la salle d'audience.
La première chose qui vraiment impressionne, c'est la taille de la salle.
Olivier Laplot est vice-président de l'association de victimes Life for Paris.
La taille du box aussi, c'est la première fois qu'on se projette vraiment finalement. C'est très 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 impressionnant.
Thomas et Sylvie étaient tous les deux au Bataclan le 13 novembre. Ils ont l'intention de suivre au maximum les 8 mois d'audience.
Je ne l'avais même pas réalisé, mais ça aurait pu être dans un hangar à 75 km. De Paris ou dans un amphithéâtre ou dans une salle de spectacle. Et là, je pense que ça n'aurait pas été possible. En plus, on a eu le droit de prendre des photos, donc ça y est, une petite photo maintenant.
L'autre chose qui m'a marqué aussi, c'est la barre des témoins qui est complètement en amont par rapport au box. C'est témoigner avec les accusés derrière soi. Et ça, avoir la représentation de la menace derrière soi, ça rappelle quand même quelque chose.
Pour Stéphane, qui a presque tout lu du dossier d'instruction, il s'agit d'une nouvelle étape dans sa préparation psychologique.
C'est tout bête, mais on aime bien se repérer. Je pense pas être le seul à dire qu'on a un peu une aversion maintenant des lieux qu'on ne connaît pas. Donc voilà, comment ça, au moins on se familiarise au calme entre nous, avant que ça démarre et que ce soit beaucoup plus compliqué.
À cette occasion, les victimes ont aussi pu récupérer leur badge d'accès. Vert pour celles qui sont disposées à apparaître dans les médias, rouge pour les autres.
Le reportage de Charlotte Piret, qui est à retrouver sur franceinter.fr. Enfin, tous fous de La Rochelle et ses francopholies. Le festival annulé, comme presque tous l'an dernier, fait son retour depuis samedi en centre-ville et dure jusqu'à mercredi soir, avec une belle fréquentation malgré les contraintes sanitaires et des artistes enchantés. Mathieu Culon.
Hier soir, Gaël Faye était sur la grande scène de l'Esplanade Saint-Jean d'Acre, le chanteur-écrivain en pleine création pendant le confinement qui retrouve le public avec intensité.
C'est un plaisir immense après toute cette séquence où on a quand même eu un peu peur de devoir attendre des années ou de se dire qu'il y allait avoir tellement de contraintes sanitaires que finalement la fête ne serait pas la même. J'ai vécu des scènes là, avant de venir ici tout à fait incroyables, les gens... Rageuse envie de faire la fête, de se retrouver, d'écouter de la musique en live. Donc c'est merveilleux. Je me laisse emporter par la musique et les mots sont là pour surligner les émotions de la musique.
On est les derniers dans le monde.
Les Francopholies de La Rochelle, c'est aussi le chantier des Francos, le dispositif de découverte de groupes ou artistes en devenir. Fiscara fait partie de la double session 2020-2021. Le chanteur qui a trouvé ici une famille en jouant devant Jean-Louis Aubert et au Théâtre Verdière.
Et c'était très bien, les gens étaient très réceptifs, ça a tapé des mains. Je peux te dire que 10 000 personnes qui tapent des mains en même temps, ça fait un délire quand même.
Nous, c'est le nerf de la guerre pour nous, le live. Donc moi, je remercie encore de nous avoir reconduits sur 2 ans parce que je me serais senti lâché dans la nature si on n'avait pas reconduit cette année.
Les Franco de La Rochelle qui se poursuivent ce soir avec Francis Cabrel, Lucie Antounès ou encore Birds on a Wire.
Comme un lundi, méchant.
Le lundi méchant de Gaël Faye, mais le lundi il n'est pas méchant quand on le commence à l'écoute du 6-9 de l'été, Karine. À noter que France Inter sera en direct des Francopholies ce soir à partir de 20h.
Bon, vous êtes charmant, Kevin Dufraîche. Merci, vous avez le droit de revenir à 9h.
France Inter. Karine Bécard, le 6-9.
Se faire la bise, dans combien de temps va-t-on oser recommencer à s'embrasser ?80 secondes ce matin pour parler de cette tradition qui agace les anglo-saxons. Reprendre l'habitude de nos bises, finira-t-on par oublier ? Pourrait-elle, un jour ou l'autre, ne plus exister ? Parce que, certes, les masques ont commencé à tomber, nous ne sommes de plus en plus nombreux à être vaccinés, mais ce rituel, ce réflexe de se baisoter, on le voit bien, avec l'enchaînement des variants, est en train de s'éloigner. Je ne sais pas si vous savez, mais l'affaire remonte à une cinquantaine d'années, quand les lycées se sont ouverts à la mixité. C'est à ce moment-là que les bises en France se sont, comment dire, démocratisées. Le problème, c'est qu'ensuite, elles se sont généralisées, qu'après cela, on les a surmultipliées et qu'on a fini sincèrement par être totalement submergés. En fait, si elles devaient revenir, ces bises, ce qu'on aimerait, c'est avoir le droit de les choisir. Interdire les bien piquantes et savoir gérer les trop entreprenantes. Ce qu'il faudrait, c'est profiter du moment pour les redéfinir ensemble. C'est-à-dire ne plus se retrouver coincé et être obligé de biser et ne pas non plus être forcé de checker en ayant une fois de plus l'impression de s'américaniser. Donc il va falloir se battre pour les garder, ces bises, et rappeler qu'elles devront rester un court moment de complicité et qu'il ne tiendra qu'à nous de décider de l'accorder. Allez, le zoom.
On a réussi à passer en Angleterre. Ils nous ont trouvés dans le camion. Maintenant, la sécurité du ferry nous interdit de descendre. Il faut attendre la police britannique. Je veux demander l'asile ici.
Toute cette semaine, France Inter remonte la piste de Bilal, un jeune migrant de 26 ans, kurde parti d'Irak pendant 3 ans d'exil. Il a vécu le froid, la faim, les violences et les élans de solidarité. Son périple commence dans sa ville natale, Dalabja, au nord-est de l'Irak, où, comme Bilal, des jeunes Kurdes irakiens font la queue pour demander des visas pour la Turquie, première étape de leur rêve d'Europe. Première étape sur les pas de Bilal, quitter son pays natal. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Mathilde Dehimi.
On est dans les faubourgs d'Alabja. Les gens cherchent l'ombre sous le soleil brûlant, 40 degrés. On est à l'est du Kurdistan irakien, à une quinzaine de kilomètres de la frontière iranienne, là, juste derrière les montagnes. Il y a beaucoup de tracteurs ici, puisqu'on est dans une zone rurale. Alabja est une ville martyre. En 1988, Saddam Hussein a lancé ici une attaque chimique contre sa population kurde. 5000 morts, 7000 blessés. On va aller voir le monument aux martyrs. C'est la famille de Ramont. En tout, il y a 32 noms pour votre famille.
Leurs noms sont écrits là, sur le mémorial. Ils ont tous été intoxiqués au gaz. J'ai 25 ans et je fabrique des fenêtres dans un tout petit atelier. Avec la crise, mon salaire est vraiment bas. Si je reste ici, c'est pour mes parents. Ils ont perdu tout le monde dans cette tragédie. Si un jour ils me disent « Vas-y », moi aussi je partirai.
Regarde cette photo de Bilal.
Je ne connais pas Bilal, mais oui, c'est un exemple parmi d'autres.
Parfois, la route s'arrête brutalement aux portes de l'Europe, en bateau ou en voiture. On ne compte plus les morts. Le fils de Salah n'a pas survécu à un accident. C'était il y a 10 jours, le long de la frontière entre la Turquie et la Grèce. Salah et sa femme acceptent de nous parler, mais ils refusent les médias locaux.
A toujours critiqué notre pays, les médias finissent par avoir une mauvaise influence sur nos jeunes. Ils devraient arrêter de prendre cette route pour émigrer. Tout ne se passe pas en Europe, il y a d'autres endroits pour être heureux.
On ne voulait pas qu'ils partent. Je lui ai dit, qu'est-ce que je deviens si tu meurs? Il ne m'a pas écouté. Ils sont des milliers comme ça.
La plupart des candidats au départ viennent surtout d'une autre ville, Rania. C'est à 3 heures de route d'Alabja. 10% des habitants ici ont tenté de joindre l'an dernier l'Europe via la Turquie. On dirait qu'il reste des places. On va faire une pause dans cette échoppe de thé.
Avant ici, tu ne trouvais pas de place, mais là ils sont tous partis. Je gagnais 50 000 dinars irakiens, maintenant c'est seulement 1 000-2 000 dinars. J'en ai parlé au patron des agences de voyage ici, il a 40 jeunes par jour qui lui demandent un visa pour la Turquie.
Cardo est en train de commander. À 24 ans, il sort de l'université, ingénieur en pétrochimie.
Dès que j'ai été diplômé, j'ai essayé de chercher un boulot. J'avais des adresses en tête, mais pour y travailler, ce n'est pas le diplôme qui compte, mais si j'avais des relations. C'est pour ça que je n'ai rien trouvé. J'ai un plan. Je vais bientôt partir pour la France, l'Europe ou le Royaume-Uni. Rien ne me retient ici. Je n'ai pas de vie, pas de travail. C'est dur de réunir autant d'argent. Ça coûte 15 à 20 000 dollars.
Cardo est en train d'expliquer qu'il va emprunter de l'argent à son frère qui est déjà au Royaume-Uni. Il espère aussi que le cours du Bitcoin va vite remonter. Il y a beaucoup de gens ici qui investissent dans la crypto-monnaie. Un homme qui a à peu près la trentaine est en train de l'interrompre.
Oui, c'est 15, 18 000 dollars. Un passeur peut t'aider pour tout.
Est-ce que c'est un passeur?
Non, non.
Quelques minutes plus tard, il assume.
Je le fais pour l'argent, mais pour certains, je le fais gratuitement. Je prends 30 personnes avec moi dans 2 voitures jusqu'en Grèce. Certains n'ont rien et vendent leur rein, leur foie, un testicule pour payer tout le voyage vers l'Europe.
La Grèce, par la frontière terrestre, c'est le chemin qu'a choisi Bilal.
Quitter son pays natal, c'était le premier épisode de notre série sur les pas de Bilal, réalisé par le service reportage de France Inter. Demain, l'entrée dans l'Union européenne avec un reportage à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Et vous pouvez retrouver toutes les étapes du voyage de Bilal, enrichies de photos sur notre site franceinter.fr.
France Inter. Le 6-9 de l'été.
Histoire de sport à 7h20. Bonjour Marine Clette.
Bonjour Karine.
À 7h20, histoire de sport, ce matin, vous nous parlez de l'un des hommes les plus rapides du monde. Il ne s'appelle pas Usain Bolt, mais il a tout de la relève.
Il s'agit de Trevon Bromell. Il est américain, il a 26 ans et il était ce week-end au meeting de Monaco pour une compétition